Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 25 janvier. La tristesse chez les pompiers de la métropole, un des leurs est décédé brutalement dimanche matin. Un homme qui avait été amputé des deux bras en 98 a été greffé le 13 janvier dernier à l'hôpital Édouard Herriot. Le témoignage de sa compagne dans cette édition. Le Covid-19, les taux d'incidence ne cessent d'augmenter dans le Rhône et dans la métropole. Emmanuel Macron pourrait annoncer en milieu de semaine un nouveau confinement. La ligne de tramway T7 qui doit relier Vaux-en-Velin-la-Soie à Décines-Hoël-Vallée sera opérationnelle lundi prochain. Un petit-déj servi gratuitement à l'école pour des enfants de maternelle, c'est l'expérience lancée par la ville de Lyon dans le 8e arrondissement avec le rectorat. Dans quel but ? Réponse de Stéphanie Léger, adjointe à l'éducation et invitée de ce quart d'heure lyonnais. Et puis la victoire de l'Olympique lyonnais dans le derby à Saint-Étienne, 5-0.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les pompiers de la métropole sont en deuil. Un des leurs est décédé brutalement dimanche matin. L'homme a été découvert inanimé dans les vestiaires de la caserne de Givors. Victime d'un arrêt cardio-respiratoire, il a été impossible de le ranimer. Selon le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours, le quinquagénaire s'était senti mal pendant la séance de sport. Sapeur-pompier volontaire depuis 87 et depuis près de 24 ans à Givors. L'adjudant-chef Jean-Paul Acolas, 50 ans, était président de l'Amicale des pompiers de Givors. Il habitait à Grigny. Une enquête a été ouverte en interne pour déterminer les circonstances de sa mort. Le 24 septembre 2011, une gendarme était retrouvée morte à la caserne Delfos. L'enquête avait conclu à un suicide pour raison personnelle. Mais 9 ans après les faits, des questions subsistent sur la mort de Myriam Sacri. La jeune femme d'origine algérienne se plaignait d'être harcelée par des collègues. Elle avait contacté une association de défense des militaires évoquant injures racistes et humiliations. Une enquête avait été ouverte pour harcèlement et discrimination. Mais la procédure avait été classée sans suite et la thèse du suicide était retenue. Ces dernières années, une amie juriste de la famille a recueilli de nouveaux éléments qui ont conduit le parquet général à requérir la reprise de l'information judiciaire pour harcèlement et homicide involontaire. Le dossier revient demain devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. Victime d'un accident sur une ligne à haute tension, Félix Grétarsson avait dû être amputé des deux bras en 98. Depuis 2005, il se battait pour être greffé. Le 13 janvier dernier, il a enfin bénéficié d'une greffe bilatérale de bras au niveau de l'épaule à gauche et transhumérale proximale à droite. L'opération s'est déroulée à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Dès 2013, il avait emménagé à Lyon pour se préparer à cette opération après une rencontre 6 ans plus tôt avec le professeur Jean-Michel Dubernard, à l'origine des premières greffes des bras et du visage. Le 13 janvier, 4 équipes, composées chacune de 3 chirurgiens spécialistes de l'orthopédie et du membre supérieur, associés à 3 chirurgiens vasculaires, ont été mobilisés. L'opération a duré près de 15 heures. Et aujourd'hui, le patient va bien. Il y a toutefois des risques infectieux et de rejet. Félix Grétarsson va devoir subir un traitement immunosuppresseur. Sa rééducation durera plusieurs années. Pour son épouse Sylvia, il réalise son rêve et moralement, il va exceptionnellement bien.
Tout à l'heure, je l'ai vu et il allait très très bien. Il a vécu 26 ans avec les bras. Il savait vraiment la différence avec les bras et sans les bras. Lorsque quelqu'un est né sans les bras, ce n'est pas du tout pareil, puisque la personne à ce moment-là développe une mobilité avec les pieds. Ce n'était pas le cas avec mon mari, c'était un peu plus difficile. Il était autonome dans certaines situations, mais pas au point de vivre seul sans avoir les personnes qui l'aident au quotidien. Sa motivation principale, c'était de retrouver l'indépendance.
Cette prouesse chirurgicale a nécessité la mobilisation de 50 personnes disponibles pendant 24 heures. Et ce du jour au lendemain, et en pleine crise sanitaire. Une prouesse chirurgicale donc, mais aussi en termes d'organisation.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Le Covid-19, les taux d'incidence ne cessent d'augmenter dans le Rhône, 228 pour 100 000, et dans la métropole, 222 pour 100 000. 822 patients sont hospitalisés dans le Rhône, dont 133 en réanimation, soit 4 de plus. Ces dernières 24 heures, 10 nouveaux patients ont été hospitalisés et 6 nouvelles admissions ont été réalisées en réanimation. 4 décès ont été enregistrés depuis samedi, ce qui porte à 2105 le nombre de décès à l'hôpital depuis le 1er mars.
Luttons ensemble contre la Covid-19. Téléchargeons l'application Tous Anti-Covid. Franchement, vivement qu'on entende plus ce message. Ah non, vraiment. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment ? Eh bien, plus vous êtes nombreux à utiliser l'appli Tous Anti-Covid, plus elle est efficace contre le virus, et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid, et ce n'est qu'un début. Ceci est un message du gouvernement.
La ville de Lyon et la préfecture, donc l'État, plutôt le rectorat, se sont associés pour lancer une expérience de petit déjeuner solidaire dans une école du 8e arrondissement, c'est l'école maternelle Olympe de Gouges. Et cette expérimentation est réalisée dans le cadre d'un dispositif gouvernemental qui s'appelle les cités éducatives. Stéphanie Léger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjointe à l'éducation à la ville de Lyon. De quoi est partie exactement cette initiative dans le 8e ?
C'est une demande de l'éducation nationale qui souhaite impulser en fait cette expérimentation des petits déjeuners, notamment dans les quartiers prioritaires, c'est-à-dire en REP et REP+, donc ce sont des quartiers de politique de la ville. Et c'est les écoles volontaires hein, qui peuvent le faire.
Comment se déroule ce temps de petit déjeuner ?
Nous accueillons les enfants sur le temps scolaire, donc à 8h20, avec certains parents, avec certaines familles, en présence de parents, donc ça va se faire en rotation pour qu'on puisse accueillir tous les parents. Et on propose un petit déjeuner équilibré avec des produits bio et où on a pu s'approvisionner localement, donc autour du 8e, dans le 8e. Et donc, on discute avec les enfants et les parents sur ce qu'ils mangent, sur leurs habitudes alimentaires et sur l'importance de ce premier repas de la journée pour l'équilibre de l'enfant et aussi la qualité de l'apprentissage qui va en découler en termes d'attention, de concentration, voilà. Donc, c'est vraiment une expérimentation, si vous voulez, un dispositif, une activité qui se fait en éducation, parce qu'il y a bien sûr les enseignants, il y a le personnel de la ville de restauration, il y a les enfants et les parents et on discute ensemble, on prend en compte aussi à la fois les habitudes mais aussi les traditions alimentaires des enfants qui peuvent être différentes suivant les familles et on essaye de faire évoluer ce dispositif, cette activité vers des petits déjeuners les plus équilibrés possibles.
Parce que c'est reconnu hein, qu'un enfant qui a pris un petit déjeuner aura plus de facilité à étudier ensuite dans la matinée. Hein.
Voilà, un petit déjeuner qu'il ait pris le temps de le prendre aussi, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui le matin sont pressés parce qu'il y a l'organisation familiale qui peut jouer et donc souvent on file un petit gâteau ou un petit paquet donc c'est montrer aussi l'importance à la fois en termes de santé mais aussi de convivialité familiale si on peut essayer de si on a le temps un peu de d'être là avec l'enfant pour bien démarrer la journée quoi. Tout à fait.
Et ça se fait avec un partenaire associatif du 8e, et puis c'est bon, on en a déjà parlé sur Lyon Demain, mais on peut le rappeler, c'est une cantine sociale et solidaire.
Alors absolument, on travaille vraiment là-dessus, on a une sorte des professionnels qui encadrent les enfants. Donc, comme je vous l'ai dit, ça se fait avec, bien sûr, la directrice, les enseignantes de l'école. L'éducation nationale est bien sûr très présente. Il y a les infirmières scolaires et il y a le centre social Mermoz aussi, qui a tout à fait une expertise en termes alimentaires, etc. Donc, c'est vraiment un travail, c'est un pilotage de cette expérimentation avec des gens qui sont dans le quotidien de l'enfant et des familles. Et puis ensuite, effectivement, on travaille avec une épicerie locale, avec du pain qui est bio. Il y a toute une prise en compte de ce qu'on leur sert, de la façon dont on leur sert, dont on le présente. Et puis, on accompagne. Et c'est vraiment, moi, pour y avoir assisté, on discute beaucoup avec les parents parce que effectivement, les enfants sont très attentifs aussi à ce que vont dire leurs parents. Et c'est un échange avec l'enfant, avec les parents. Donc, c'est vraiment un dispositif intéressant parce que il lutte à la fois sur la précarité alimentaire, mais l'équilibre alimentaire. Et donc, c'est vraiment un dispositif de justice sociale et de justice aussi de santé, en fait. Hein, voilà. Et il a des vertus très pédagogiques. C'est très bien qu'un enfant sache ce qu'il doit manger le matin pour partir de bon pied.
Et l'apprentissage du bien manger, il faut que ça commence tôt. Hein.
Exactement, tout à fait. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a des facilités à pouvoir se fournir dans des produits qui sont pas forcément bons pour la santé. Je comprends que l'organisation des familles, l'organisation professionnelle n'est pas évidente le matin et la journée d'ailleurs, mais il y a quand même des choses essentielles en termes de santé qui doivent être assimilées, intégrées par les parents pour que leurs enfants soient en pleine forme.
Cette initiative a encore plus de sens avec la crise sanitaire et donc la crise économique du coup.
Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a certainement des familles qui soit rentrent en précarité, soit deviennent, dans une précarité encore plus grande. Et je crois que de pouvoir expérimenter ça à l'école, pour certaines familles, c'est clair que ça va être un vrai apport d'un deuxième repas, parce qu'avec la cantine scolaire, il y a déjà un repas qui est équilibré. Donc, s'il y a un petit déjeuner en plus, c'est certain que voilà, on garantit pour l'enfant un équilibre alimentaire, tout à fait. Ouais.
C'est une première expérience. Ça veut dire que d'autres écoles vont pouvoir éventuellement en bénéficier dans l'avenir.
Alors, c'est une expérimentation. On va voir comment, comme tout dispositif expérimental, il y aura une évaluation. Là, on travaille sur les 6 mois, hein, donc parce que ce sont des petites classes. On va voir aussi comment les parents s'approprient, réagissent, nous transmettent aussi leurs habitudes alimentaires. Ça peut être aussi des traditions alimentaires que pour l'instant, voilà, on n'a pas encore mesurées et qu'il est bon aussi sur lesquelles nous on évolue et on se renforce de propositions. Et puis, si ça fonctionne, c'est à déployer sur d'autres écoles et voir comment effectivement on peut l'étendre sur plusieurs ou de nombreuses écoles lyonnaises.
Merci Stéphanie Léger. Je rappelle que vous êtes adjointe à l'éducation à la ville de Lyon.
Eh ben, c'est moi qui vous remercie. Très bonne journée.
Victime collatérale du Covid-19, la plus grande réserve ornithologique sauvage de Rhône-Alpes, ouverte il y a 25 ans, est désormais fermée au public et ce depuis plus de 9 mois. C'est l'Écopôle du Forêt. Le site géré par France Nature Environnement est dans une situation financière chaotique. FNE a lancé un appel à la générosité, un appel aux dons via Hello Asso. France Nature Environnement Loire a besoin de 50 000 euros. Une grande partie des fonds collectés servira à préserver le site et ses sentiers, aménager des infrastructures adaptées aux espèces et à l'observation, poursuivre également les études scientifiques, le tout en vue de rouvrir le site au public dès la fin de la pandémie. La ligne de tram T7 qui doit relier Vaux-en-Velin-la-Soie à Décines-Hoël-Vallée en empruntant les rails du T3 pour desservir 2 stations, Décines-Centre et Grand Large, sera opérationnelle lundi prochain. La mise en service aurait dû être effective le 2 novembre, mais elle avait dû être décalée à une date ultérieure en raison de la pandémie de Covid-19.
Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre.
En bref, les sports, l'Olympique Lyonnais étrille à l'AS Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Les Lyonnais l'ont emporté 5-0. L'Olympique Lyonnais revient à 2 points de la première place. Les Stéphanois, 16e, sont plus que jamais en danger. En rugby, le Loup s'impose à Montpellier, 21-16. Les Lyonnais ont arraché leur 3e victoire à l'extérieur après Toulouse et Agen. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente journée, mais restez prudents.